Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Au lève-tôt de tous les jours, aux insomniaques occasionnels, à celles et ceux qui ont décidé de prolonger la nuit de Noël avec France Culture, à vous toutes et à vous tous, chers amis qui nous écoutez de plus en plus nombreux, en différé ou en ligne ou en podcast, toute l'équipe du Réveil Culturel vous souhaite un joyeux Noël. Toute l'équipe, c'est bien sûr Vincent Bouchard à la réalisation, Corinne Amar à la coordination et Bruno Mourlan à la technique ce matin. Bonjour tout le monde, on écoute Nat King Cole et on se retrouve après avec notre invitée, la conservatrice Alexandra Bosque.
All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on a thistle.
Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
All I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on a thistle.
Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my
two front teeth, two front teeth, two front teeth.
Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
La mode dans tous ses états s'expose actuellement dans les musées de Rouen et ses environs jusqu'au 19 mai 2019. D'où la présence d'Alexandra Bosque, qui est conservatrice. Bonjour, merci d'être venue.
Bonjour, merci.
Alors, pas moins de 6 expositions, toutes gratuites, dans des musées proches les uns des autres. C'est dans le cadre de la 7e édition du Temps des Collections. Et Alexandra Bosque, vous êtes commissaire de 3 des expositions, dont une consacrée à Paco Rabanne, l'autre aux élégantes et dandies, ça c'est le 19e siècle, et puis une autre au musée de la céramique consacrée aux bijoux. Mais alors pourquoi la mode et pourquoi ce thème à Rouen?
Alors bah c'est assez simple, en fait on l'oublie peut-être aujourd'hui, mais Rouen est un berceau historique de production de matières premières, le drap de laine d'une part, et les toiles imprimées. On connaît Oberkampf, on connaît donc Oberkampf et les toiles imprimées au 18e et encore au 19e. On connaît Mulhouse aussi, parfois les gens ont encore cette image de Mulhouse qui était un berceau aussi de production. Mais il ne faut pas oublier que les rouenneries, qui étaient donc produites à Rouen, étaient aussi un type de production qui avait un berceau local industriel, qui a aussi fourni une bourgeoisie locale, mais nationale, voire internationale. Et donc, c'est tout ça sur lequel on a voulu rebondir. Le propos du Temps des Collections, donc qui est c'est la 7e édition de cette manifestation dans les musées de la métropole de Rouen. L'idée, c'est de faire revenir, je dirais, les publics, vers nos collections permanentes, et donc en rebondissant sur des points forts de nos collections. Jusqu'à présent, les Temps des Collections, c'était présenté avec des manifestations qui n'étaient pas forcément thématiques. Ça avait été une nouveauté déjà instituée l'année dernière, avec des expositions autour des arts décoratifs, autour de grands prêts consentis par le musée d'Orsay. Et cette année, on a voulu rebondir sur cette thématique dont chacun des musées de la Réunion des musées métropolitains conserve des pièces qui sont en résonance avec cette thématique.
Alors les musées métropolitains de Rouen, Normandie, mettent en valeur leur collection, vous venez de le dire, autour du thème de la mode cette année, fashion, avec un point d'exclamation.
Bah oui, soyons optimistes.
Pas moins de 6 musées, ça aussi je l'ai dit, de la région proposent plusieurs expos gratuites, et ce n'est pas rien de le préciser, de le repréciser même, et donc on peut passer d'une exposition à l'autre en déambulant l'après-midi dans cette belle ville normande. Alexandra Bosque, peut-être que j'ai oublié en vous présentant de préciser, et c'est tout aussi important, que vous avez été conservatrice du palais Galliera, c'est-à-dire du musée de la mode de la ville de Paris.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous êtes spécialiste donc de
alors,
de la mode?
Je suis devenue spécialiste de mode 19e, 20e. C'est un petit monde de passionnés très agréable à côtoyer et puis ça permet de, je dirais, de voir d'un autre regard aussi notre quotidien, de voir les sources des formes. On dit que la mode est toujours du renouvellement, du revival, et c'est loin d'être faux. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais cette période romantique est un des moments où se met en place ce retour à des modes du passé. Et donc ça, c'est quelque chose que au quotidien, j'aime bien aussi avoir un regard un petit peu acéré sur les vêtements.
Et pas
sur les
sur
vêtements
une
de nos
époque précise, parce que l'idée est de donner quand même un aperçu de la des habitudes vestimentaires à travers de l'histoire, c'est-à-dire de l'Antiquité à l'époque contemporaine.
C'est ça. On va des tissus coptes jusqu'à donc Paco
Rabanne.
Cette
belle exposition, belle égyptienne, ouais.
Voilà, faite par ma collègue Caroline Dorion-Perronnet au Musée des Antiquités, voilà, qui présente des collections qui sont rarissimes, parce que c'est vraiment un des fonds importants en France, conservés de ces textiles qui sont conservés dans des états de conservation incroyables, et en faisant aussi le point sur les études, sur les modes de présentation, sur les recherches, je dirais, historiques qui ont été faites dès le 19e siècle par les conservateurs locaux. Donc c'est vraiment une avancée de la recherche aussi.
D'ailleurs, comment on conserve des vieux textiles qui ont plus de 2000 ans?
Alors, bon là, c'est un petit peu particulier parce que justement, ils avaient été remontés de manière, je dirais, un petit peu sauvage au 19e siècle. Et pour les conserver aujourd'hui, on est obligé de retravailler sur les montages d'origine. Donc ça, c'est vraiment des cas assez particuliers. Aujourd'hui, en règle générale, quand on conserve des textiles, l'idée, bah, bien sûr, par exemple, tout bêtement, c'est de ne pas les plier, parce qu'un pli, ça veut dire qu'ensuite, on n'arrivera pas plus à le défaire et on peut potentiellement créer des fentes. Et puis surtout, on les préserve loin de la lumière. Donc c'est pour ça que c'est vraiment assez exceptionnel aussi de pouvoir profiter de ces expositions sur un temps long, c'est-à-dire 6 mois, ce qui est long pour du textile. On a tous l'expérience des rideaux qui se fendillent à la lumière. Bah, ça, c'est une réalité. Un tissu qui a reçu un certain degré de lumière va s'abîmer et ne reviendra jamais à un état initial. Donc c'est vraiment un patrimoine qui est particulièrement fragile dans tous les sens du terme. Il est fragile physiquement, il est fragile aussi, je dirais presque émotionnellement, quand on est face à des costumes. Ce sont des costumes, parfois, moi j'ai cette expérience de porter, on le fait à plusieurs, hein, les costumes qui sont conservés dans les réserves, et parfois on a l'impression de transporter des êtres humains.
Alors Alexandra Bosque, comment résumer les histoires que racontent ces expositions à Rouen? Parce que vous avez travaillé sur une histoire, c'est du storytelling aussi, hein, parce que là on a l'histoire effectivement du textile, 2000 ans de textile à partir des belles d'Égypte, mais il y a aussi toute la période mode entre 1820 et 1840 au Musée des Beaux-Arts avec exposition élégante et dandy romantique. Vous êtes occupé de cette exposition ainsi que de l'exposition consacrée à Paco Rabanne, pour des raisons d'ailleurs très précises, on va sans doute en parler. Mais l'idée, quand vous vous réunissez pour lancer ces expositions, c'est de raconter plusieurs histoires.
Mais justement, c'est plusieurs histoires, parce qu'en fait, il y a vraiment une cohérence d'ensemble. Une thématique, des objets qui se répondent. Par exemple, dans l'exposition sur les dandys, j'expose aussi des échantillons d'indiennes, donc de ces tissus imprimés qui, eux, sont l'objet d'une exposition au Musée industriel de la Corderie Valois. On va se répondre, s'emprunter les uns les autres des collections. Et puis, c'est aussi à chaque fois se plonger dans un sujet différent. Donc, je pense que pour les publics, ce qui est intéressant aussi, c'est de voyager un petit peu à chaque fois sur chaque lieu, sur des ambiances, des esthétiques très différentes, hein, les années 60 révolutionnaires de Paco Rabanne, passer aux égyptiennes de la période copte, les romantiques, les bijoux aussi. Alors là, c'est un joli travail que j'ai mené en co-commissariat avec mon collègue Bruno Varin, où on a eu vraiment une idée de sortir des réserves des pièces qu'on a pas montrés parfois depuis très longtemps, ou d'autres qui sont déjà présentés dans les musées, mais de manière différente, et donc de faire cohabiter des pièces qui viennent du Muséum d'Histoire Naturelle, qui peuvent être des pièces à caractère ethnologique, qui peuvent venir d'Amérique du Sud, à côté de bijoux qui sont de l'époque romaine, de bijoux contemporains aussi, puisqu'on a eu cette idée assez amusante de faire aussi appel à nos collègues et de leur demander des bijoux que eux portent. On a notamment une pièce que j'affectionne beaucoup d'un de mes collègues charpentiers au musée qui nous a prêté pendant 6 mois, ce qui est très généreux de sa part, des médailles qui lui portent bonheur, qu'il a glanées tout au long de sa vie et dont la dernière lui a été offerte récemment par son fils, et c'est la reproduction de le bijou que portait Johnny avec la croix, avec un Christ guitariste. Voilà. Et donc du coup on est vraiment sur une diversité et des rencontres différentes à chaque fois.
Alors, des objets, des bijoux, des vêtements, du textile, mm-hmm. mais pas seulement, il y a aussi des photos, il y a aussi des tableaux.
Il y a des tableaux, bien sûr.
L'idée, c'est aussi de parler de la représentation de la mode ou des représentations.
Oui, notamment sur l'exposition élégante d'Andy Romantique, qui parle vraiment de cette période romantique qui est un petit peu oubliée dans l'histoire de costumes, donc on présente plus très souvent.
Ça, c'est au Musée des Beaux-Arts, ouais.
Voilà, au Musée des Beaux-Arts. L'idée, là, pour moi, ça a été vraiment de confronter les représentations. On a des fonds, justement, au Musée des Beaux-Arts. De peinture de cette période d'artistes assez exceptionnels comme Cour. On a vraiment un fond très important de ce peintre, très intéressant, avec vraiment des descriptions des portraits de femmes plutôt, mais on a aussi par exemple le portrait du père de Maupassant. On a des choses très intéressantes. De les confronter avec des gravures de mode, avec les vêtements tels qu'ils étaient portés, avec les accessoires, je pourrais y revenir, qui est vraiment quelque chose de très capital pour cette période. Et donc vraiment, évidemment, des caricatures aussi, des échantillons textiles. J'ai même présenté une boîte à couture. Donc on va vraiment dans une diversité d'objets qui permettent de comprendre les uns à travers les autres.
Et de préférence, le monde entier, hein. Par exemple, au Musée de la Céramique, pour cette belle exposition consacrée aux bijoux, aux diadèmes, aux sacs, mm-hmm. aux bagues, en voyage du Japon jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Équateur.
Oui, exactement. C'était vraiment l'idée de confronter, je dirais, sans hiérarchisation, des cultures très différentes. On a par exemple dans la première salle, on a voulu vraiment mettre sur le même plan, je dirais un chef-d'œuvre. Le terme n'est pas forcément approprié suivant les civilisations, mais en tout cas des pièces vraiment marquantes, qu'elles soient venues d'Afrique, de la Renaissance française. À côté, on a une pièce qui vient d'Amérique du Sud. Voilà, on a des pièces très 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 variées qui vont chacune avoir un sens forcément différent parce qu'ils sont utilisés de manière caractéristique à la civilisation dont ils émanent, mais qui s'éclairent les uns les autres. Et on a voulu avoir un regard...
C'est soit un objet de mode, soit un totem,
voilà,
soit c'est spirituel.
Un caractère sociologique, se poser la question de le bijou, qu'en est-il, même le bijou politique, c'est une question qu'on a abordée. On présente un badge mariage pour tous, on présente un badge qui avait été produit au moment de la révolution de Tiananmen. Voilà des choses qu'on n'est pas forcément habitué à associer uniquement aux bijoux. Donc voilà, traiter de cette... artialisation, cette civilisation du corps par le port d'un élément qui va trancher. À la dernière salle, on empruntait des pièces au frac qui sont présentées autour d'une pièce assez spectaculaire puisque c'est un anneau mérovingien qui a été découvert dans un contexte de fouille au 19e et qui est encore présenté avec un reste humain. Et donc dans ce sens-là, donc avec la phalange de la personne qui l'a porté. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de la mettre à part parce que voilà, c'est un reste humain et on le met en regard de photographies de dessins contemporains qui ont vraiment justement un rapport assez différent au corps de celui qui est présenté avec la pièce historique. Mais encore une fois, c'est une histoire de miroir, de confrontation.
Vous restez avec nous, Alexandra Bosque, pour nous parler justement de ces expositions autour de la mode à Rouen. Et vous êtes bien sûr sur France Culture, c'est le réveil culturel.
Thank you.
Le réveil culturel. Tufik Akem.
Les musées métropolitains de Normandie mettent en valeur leur collection autour du thème de la mode cette année. Donc c'est un Noël à Rouen qu'on vous propose ce matin dans le Réveil culturel, en compagnie de la conservatrice Alexandra Bosque. On a parlé des premières expositions, mais enfin, la grande exposition, c'est celle qui concerne Paco Rabanne, non ?
Oui, alors on s'est penché sur Paco Rabanne et son rapport au métal, qui est bien sûr emblématique de ses créations. Pour nous, ça tombait vraiment sous le sens parce que nous avons un musée qui par contre parmi les collections les plus importantes au monde d'art de la ferronnerie, qui est le musée Le Sec des Tournelles, qui est dans une ancienne église, un lieu très étonnant, vraiment un lieu de collectionneurs. Et parmi les collections, on compte des pièces qui sont rarissimes, qui sont des corps, c'est-à-dire des corsets de fer qui datent de la Renaissance, qui sont, on en dénombre trois dans nos collections, sachant qu'il n'y en a qu'une dizaine au monde, donc c'est des pièces vraiment capitales. Et l'idée, c'était un petit peu de partir de ces vêtements de métal et de se demander quelle était leur postérité. Et la postérité, il n'y en a pas eu pendant des siècles, jusqu'à ce 1er février 1966, où Paco Rabanne présente une collection tout à fait révolutionnaire qui a marqué les esprits très fortement, très rapidement, de ces, ce qu'il a dénommé ses 12 robes importables en matériaux contemporains. C'était vraiment tout un programme pour lui. Et du coup, moi je me suis plongée vraiment sur sa pensée, sur sa manière de travailler, et j'ai redécouvert, je dirais, un créateur révolutionnaire, unique dans son genre, qui a vraiment une pensée très forte, quelqu'un de très intelligent. Il a eu un rapport aux médias aussi qui est assez exceptionnel à l'époque. Un an et demi après sa première présentation, il est sur un plateau télévisé et on dit de lui « Bon, bonjour Paco Rabanne, tout le monde vous connaît, ce n'est plus la peine de vous présenter. » Et ça fait qu'un an et demi qu'il a créé sa maison. Ça résume beaucoup de choses.
Et en plus, il a créé sa maison à l'époque des grands, des Dior, des Yves Saint Laurent.
Alors justement, c'est ça la problématique, c'est qu'en fait, c'est un petit peu le coucou qui va pousser hors du nid ceux qui sont déjà en place. C'est ce que Bourdieu a étudié plus tard, dans les années 70, dans un article célèbre, où il parle de prétendants et de maisons dominantes. Et Paco Rabanne, c'est le cas type parfait du prétendant qui va rendre ringard ce qui existait déjà.
Et encore, il n'est même pas couturier, il ne se considère pas couturier, mais artisan. Et ça, il le dit dans ce film qui est très présent dans cette exposition consacrée à Paco Rabanne, métallurgiste de la mode. Il y a bien sûr, en plus de cette interview, donc ses robes, il y a quelques photos, hein, c'est-à-dire ses égéries à lui, Françoise Hardy, entre autres. Et l'idée de mettre un seul nom. Parce que c'est en réalité dans cette série d'expositions autour de la mode, de fashion, il y a un seul nom qui mis à l'honneur, c'est celui de Paco Rabanne. Ça, c'est un choix.
Oui, c'est un choix. Et puis dans ce lieu, ça tombait vraiment sous le sens. Alors, on est vraiment centré sur Paco Rabanne. À côté, on a quelques pièces que je voulais mettre en regard, qui sont celles des costumes du film de Qui êtes-vous, Polymagou, qui est tout à fait contemporain, qui date aussi de 66, qui est un film assez extraordinaire que j'engage aussi les auditeurs à voir, dont la scène inaugurale présente un défilé tout à fait fictif, magnifique, très critique à l'égard des nouveautés de cette période, avec un couturier voilà qui va présenter des robes toutes de métal, qui sont d'une technique tout à fait différentes parce qu'elles ont été faites par des sculpteurs, et c'est plutôt comme des sculptures portables, plutôt réellement importables, puisqu'elles blessent d'ailleurs même un des mannequins dans la scène du film. Et on les met en regard des présentations, pardon, des pièces de Paco Rabanne. On a eu des prêts qui nous ont été consentis de ces costumes de cinéma.
Et dans l'ensemble, ça donne quoi ? Qu'est-ce que ça raconte, vous qui avez travaillé sur le mythe de la Parisienne ? On se souvient, Alexandra Bosque, que vous étiez aussi la commissaire de cette exposition Paris 1900, qui racontait toute une époque. Et là, si on devait réunir toutes ces expositions que Rouen et que la métropole de Rouen-Normandie organise toute l'année autour de la mode, ça raconte quoi ? Ça le renvoie à ce qu'on à ce qu'on vit aujourd'hui, nous-mêmes, vis-à-vis de la mode.
Oui, alors, pour comprendre, c'est pas nouveau, hein. Pour comprendre le présent, on va souvent chercher des racines bien antérieures. Par exemple, pour la période romantique, eh bien, c'est un moment où se met en place un nouveau mode de commercialisation. Celui qui sera aujourd'hui des grands magasins, à l'époque, ça s'appelle les magasins de nouveautés, c'est complètement différent. On a l'émergence d'une caste, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils se considèrent, différentes d'élégants qui sont les dandys, qui, contrairement à ce qu'on a souvent dit, ne se distingue pas par une originalité un petit peu outrancière, mais bien au contraire par des détails qui vont leur permettre de se présenter comme des détenteurs du bon goût et d'une oligarchie. En fait, c'est vraiment l'idée d'une négation de l'évolution de la société du 19e, qui est celle d'une démocratisation. Donc on a beaucoup de choses qui se mettent en place. On a aussi des problématique de revival, les revivals de la mode, donc on appelle l'historicisme au 19e. On parle d'éclectisme dans les arts décoratifs. En mode, on parle d'historicisme, donc de citations qui vont régulièrement faire appel à la Renaissance, au 17e, au 18e et encore à d'autres périodes. Avec Paco Rabanne, ce qui est intéressant, c'est au-delà de des formes très étonnante qu'il a créé avec une utilisation tout à fait nouvelle de matériaux qu'il appelle bien contemporains, hein, le métal. Aujourd'hui, on l'associe pas aux années 60, on parle peut-être plus du plastique, mais le métal, c'est aussi celui des fusées, du monde de la science-fiction, du futur qu'on imaginait dans les années 60. Il n'y a pas Paco Rabanne. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il se positionne vraiment comme il a un mode de pensée qui a infusé la mode jusqu'à aujourd'hui. Il se positionne comme un créateur radical. Quand il ne crée que 12 robes, alors que justement, vous parliez de Dior, une maison de Dior, c'est 100 à 200 modèles à la même période. Lui, son premier défilé, c'est 12 pièces. Et on lui dit, c'est importable. Il dit, mais moi, je m'en fiche. Moi, si je fais 12 robes, c'est parce que ma proposition, elle est forte, elle est radicale. Je ne suis pas un habilleur, je suis un créateur, vraiment un artiste. Et donc, cette position, on pense à Alexander McQueen, on pense à Hussein Chalayan, on pense, il y a plein de choses qui vont jusqu'à aujourd'hui dans la création contemporaine. Donc, il y a vraiment des graines qui ont été semées et qu'on peut encore suivre dans la mode contemporaine.
Alors, c'est la mode, mais c'est aussi la représentation de la mode, notamment à travers quelques films que vous projetez d'ailleurs. Mm-hmm. On peut dire, bien sûr, Diamant sur canapé pour mm-hmm. le côté, j'allais dire, glamour de la mode, mais il y a aussi le monde cruel de la mode, avec bien sûr le film Le Diable s'habille en Prada. Mmh. Et puis ce mois-ci, en janvier, à la fin du mois, pour le week-end spécial des 26 et 27 janvier, vous proposez au public de venir pour créer en famille, avec une spécialiste du costume d'opéra, mmh. un habit et de s'initier à la teinture antique.
Oui, ben, pour mes collègues, hein, des services publics, c'est sûr que c'est une et pour le public aussi. Je pense que c'est un domaine qu'on connaît tous, mais qu'on connaît peut-être maintenant de plus loin que les générations précédentes. Dans les années 50, il y avait les arts ménagers. Ce qu'on apprenait à l'école pour les jeunes filles, c'était à coudre. Elles savaient distinguer un tissu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Donc c'est une manière aussi de rendre ludique et j'espère de faire venir des gens au musée qui n'ont pas forcément l'habitude. C'est un petit peu aussi une des idées. La mode, c'est un domaine qui gagne quand même assez récemment, je dirais, dans le monde français par rapport au monde anglo-saxon, c'est l'aide de noblesse qui attire de plus en plus de monde, qui permet, je dirais, à la fois de séduire un public très large par un côté chatoyant et très très agréable, et puis ça permet de rentrer aussi par des chemins de traverse dans des problématiques plus complexes, économiques, sociales, la place de la femme, la couture, je reviens sur le 19e siècle, mais la couture qui dure très longtemps sur le 20e, est la chose à mieux partager par la gente féminine. La femme, elle est relayée dans les classes aisées, elle est reléguée dans son intérieur, et qu'est-ce qu'elle fait pour s'occuper ? Elle fait ce qu'on appelle les fameux travaux de dame, donc elle va broder. Une femme plus pauvre, elle va devoir faire elle-même ses robes. Et puis bien sûr, il y a aussi tout l'emploi de la couture qui est le domaine d'emploi le plus important pour les femmes. Et il faut pas oublier qu'il y avait ces figures qui étaient les grisettes, qui sont devenues les midinettes à la fin du 19e siècle, qui sont les ouvrières de la couture, qui sont présentées de manière très charmante à l'époque, mais en réalité ça recouvre une réalité qui est un petit peu plus sordide, plus difficile, hein. Elles sont très mal payées et très souvent, pour finir les fins de mois, elles vont avoir l'occasion de faire une prostitution occasionnelle. Donc on est dans un monde à la fois très, c'est le, bien le mieux partagé par les femmes, mais à des échelles très, très différentes. Et ça aussi, on essaie de le mettre en perspective.
Alors tout ça, c'est jusqu'à fin mai à Rouen, tous ces musées qui organisent ces expositions autour de la mode. Donc si vous n'habitez pas Rouen, et bien vous avez jusqu'à la fin mai pour aller faire un tour. Merci beaucoup Alexandra Bosque d'être passée ce jour de Noël pour le parler de ces expositions. Je rappelle que vous étiez conservatrice au Palais Galliera et que vous êtes donc commissaire de 3 de ces expositions. Et par ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Alors votre titre à rallonge, je vous laisse le soin de vous dire.
Oui, alors c'est un petit peu long. Donc je suis conservatrice du patrimoine, chargée des objets d'art, du musée de la céramique et du musée Le Sec des Tournelles au sein de la Réunion des musées et métropolitain Rouen-Normandie.
Bah voilà.
C'est un petit peu long pour le jour de Noël.
Merci d'être passé.
Merci beaucoup et très joyeux Noël à tous. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight. All the way home, I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.